Donc inattendu dans la création littéraire et artistique, bien sûr, à la lumière du printemps arabe. Alors ces collaborations. Ces collaborations, donc en fait les co-organisateurs, ceux qui sont impliqués dans cette manifestation. La preuve que cette manifestation ne doit rien au hasard, que les réseaux fonctionnent, que j'y reviendrai tout à l'heure, et je tiens à énumérer cette liste qui n'est pas à la Prévert parce qu'elle est cohérente. Donc l'université du 9 avril à Tunis, bien sûr la Manouba à Tunis, l'université du Caire, l'université de Pina, le Texas Tech, l'université de Lubbock, Texas USA, l'université française Diderot, l'ENS LSH, mais l'ENS tout court, Frédéric, que on va dire tu incarnes, entre autres, non, mais j'en ajoute un peu, Stendhal, bien sûr, Grenoble 3, l'Agence universitaire de la francophonie, que je commence à bien connaître, j'étais à Bucarest il y a quelques jours, la région, bien sûr, Rhône-Alpes, au titre de l'Arc 5, le programme de recherche et le site de l'IMAG, l'association, car vous voyez, l'université travaille aussi avec des associations, donc Coup de soleil en Rhône-Alpes, et c'est un beau titre, c'est un bel intitulé d'association, l'ENSAT, nous sommes tous plus ou moins des théâtreux, mais là on a des gens extrêmement sérieux, cette rue blanche délocalisée à Lyon, installée. Et puis cette association France-Algérie-Rhône-Alpes, je la connais notamment par quelques-uns de ses membres, et puis Forcem, donc le Forum de solidarité euro-méditerranéenne. Alors ce que je voudrais souligner, pour ne pas abuser de votre temps, de votre patience, mais revenir un peu sur, bien sûr, cette dimension internationale du colloque Europe-Méditerranée-Maghreb, qui a pu fédérer autant de partenaires, c'est quand même pas fréquent, autour surtout d'un objet commun. Ce qui permettra d'envisager ou de renforcer les échanges, les collaborations autour de projets de recherche existants déjà, mais aussi d'autres qu'il faut construire, qu'il faut établir. Enfin, ce n'est pas le moment de faiblir, véritablement. J'aurai l'occasion de m'entretenir avec un certain nombre de représentants des établissements tout à l'heure. Je ne peux pas, vraiment pas participer à votre dîner ce soir. J'ai quelques obligations dans mes fonctions. Mais je verrai donc tout à l'heure à 17h30. Je voudrais revenir sur l'attention que on peut prêter, vue d'Europe, à l'évolution, bien sûr, des enseignements, des pratiques artistiques en langue française, et ce qui se double en plus dans une situation de, au moins d'un contexte tendu. C'est le cas à minima pour l'Égypte et pour la Tunisie. Et donc vous comprenez que ce qui est en jeu avec cette manifestation, en tout cas tel que je me permets de le lire, mais je sais que c'est sans doute partagé, sans doute pour vous, avec des rationalités bien plus établies que la brutale rationalité de la gouvernance politique de cet établissement. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que oui, effectivement, il y ait question de valeurs, des valeurs, du dialogue, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'interculturalité. Je voudrais au passage, solennellement bien sûr, saluer le courage des intellectuels, parce que là pour le coup le mot veut dire quelque chose encore, des universitaires, des artistes de ces pays. Je voudrais me féliciter, et je vais tout de suite expliquer, pour cet usage de la francophonie comme espace de dialogue. À cet égard, je ne pense pas que, enfin je ne voudrais pas que parler de francophonie soit prêter le flanc à un éventuel nationalisme, un éventuel colonialisme, post-colonialisme. C'est-à-dire que la francophonie, elle existe, la pratique de la langue, elle existe. Ce qui me semble fondamental, et je dois le dire, j'ai un peu réfléchi à la question, je vous dis, j'étais à Bucarest il y a quelques temps, autour de la francophonie, et que cette approche. Je crois que la France, dans la francophonie, a beaucoup de choses à faire, bien sûr, mais n'est pas le gardien du temple, n'est pas le gardien de la bonne francophonie, qui serait ailleurs pervertie. Deuxième chose, c'est que, quand je regarde le nombre des accords, des déplacements, Erasmus et autres, à l'établissement comme Lyon 2, bon, il y a une forte propension quand même en direction de Québec, Montréal et autres, qui se comprend. Mais ce n'est pas ma seule perception de cette francophonie. Et si on parle de la francophonie, je suis persuadé. En gros, on est en train de remodeler les relations internationales de l'établissement Lyon 2, et puis de repenser parallèlement, comme dans beaucoup de domaines, ce que la communauté universitaire d'établissement est en train d'émerger. L'Université de Lyon, qui se met en place progressivement, à minima, rassurez-vous. Il ne s'agit pas de tout confisquer au prix encore d'un super machin qui nous coifferait, mais qui nous coordonne, qui permet éventuellement de travailler ensemble, qui offre manifestement des possibilités de dialogue, au moins sur le site client Saint-Étienne. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi la possibilité de travailler ensemble sur la version internationale. À ce titre-là, je voudrais dire que pour les lettres, les langues, les arts, les sciences humaines, les sciences sociales, Lyon 2, avec son histoire, et n'oubliez pas que ce colloque est inclus dans les manifestations qui accompagnent les 40 ans de l'Université Lyon 2. Donc je voudrais simplement vous dire que, au terme de, pour moi, Lyon 2 a une vocation méditerranéenne. J'y tiens absolument, je l'ai toujours dit, y compris dans mes recherches, vous savez, j'ai travaillé sur le rural, mais aussi sur l'alimentation, vous voyez où je veux en venir. Et donc on avait un certain nombre de dossiers de fondation tout prêts avec Julia Servo, à partir du moment où elle a porté le dossier UNESCO sur le patrimoine immatériel et sur ce que représente donc, ce repas gastronomique à la française, bien évidemment. Je ne dévie pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a manifestement, pour nous, et je souhaite que nous puissions vraiment le développer, qu'il y ait cette vocation méditerranéenne de Lyon 2, ce double d'une vocation africaine. Et que ce que nous enseignons, notre offre de recherche, notre offre de formation, bien sûr, elle doit s'insérer dans l'international. Il est important qu'on regarde ce qui se passe du côté de l'Extrême-Orient, etc. Mais je crois qu'on a surtout à ne pas oublier, et à ne pas être tenté d'oublier, parce que c'est difficile, l'Afrique. Toute l'Afrique. Et donc, vous voyez bien que c'est dans cette perspective que j'aurais des choses à vous dire, que l'établissement a intérêt à renforcer son positionnement, pas tout seul, bien sûr, avec tous les partenaires sur le site de Lyon. Et ça, je tenais à vous le dire très solennellement. Vous dire aussi que ce colloque s'inscrit donc parfaitement, vu dans tout cas de mon niveau, dans les thématiques privilégiées par la politique scientifique et culturelle de l'Université Lumière Lyon 2. Culture, vulnérabilité, crise, perspective et transformation, et puis bien sûr, interdisciplinarité. Interdisciplinarité, pluridisciplinarité, trans, comme vous voulez, qu'importe, mais ce qui me semble important, c'est qu'il y ait bien ce regard, art, littérature, sciences humaines, que ce colloque aborde de front, problématique. Avec cette problématique de manière, bien sûr, transversale. Quand je vois le programme, quand je vois les titres des communications, particulièrement alléchants, mais c'est généralement quand même la fonction de titre. Mais je vois, me semble-t-il, les disciplines mobilisées. La littérature, les littératures, l'histoire, psychanalyse, sociologie, analyse du discours, etc., etc. Voilà, donc c'est simplement ce que je voulais vous dire. Tout à l'heure, j'ai évoqué Bucarest, j'ai fait aussi des déclarations à Bucarest, qui est ce que je souhaite dans nos relations internationales, c'est d'essayer d'éviter d'être dans le post- ou le post-post-colonialisme. Vous savez à quel point c'est difficile. Il y a dans notre établissement des gens qui réfléchissent sérieusement à ces questions, des gens qui sont ouverts à ce qui se passe très localement. Je prends l'exemple de Mme Collot-Berger et de sa perception de la Chine et de ses derniers écrits. Et là, peut-être notre liste. Simplement, pour vous dire que personnellement, je me nourris, je souhaite que l'établissement se nourrisse de cette façon-là, et que si jamais il y avait des difficultés entre des établissements français, des collègues français, ou la France, et l'Afrique du Nord, ou l'Afrique tout court, on peut au moins peut-être passer par la médiation que peut représenter la Roumanie, avec ses Roumains et ses Roms, que peut représenter la Bulgarie. Et ce qui se passe actuellement en francophonie sur les Pécos, la Roumanie est en, se veut tête de pont. Donc dire que Lyon 2 est en accord avec Bucarest et que nous allons essayer de développer là aussi notre orientation. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'étais bien sûr un peu trop long, je vous prie de m'excuser, mais si vous souhaitez vraiment un bon travail, vous dire que je regrette sincèrement de pouvoir le suivre, c'est podcasté. Donc, je me le distillerai petit à petit au fur et à mesure de mes moments de liberté. Voilà. Et bon travail à vous toutes et à vous tous.
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, permettez-moi à mon tour, au titre de l'équipe Passage 21 que j'ai l'honneur de diriger, l'équipe organisatrice de ce colloque international, de dire aussi mon immense plaisir que cet inattendu, si fébrilement attendu depuis 2 ans, quand il s'est configuré en quasi-concomitance avec l'événement en cours, donc mon grand plaisir que ce colloque arrive à échéance en cet automne lyonnais si doux en ce moment. Je voudrais tout d'abord souligner le fait que ce colloque arrive en plus dans une période au sein de notre équipe extrêmement dense au plan de la francophonie. Je souligne là le travail de cheville ouvrière extrêmement active des deux collègues ici présentes qui sont représentatives aussi de ce groupe d'études francophones désormais bien implanté au sein de Passage. Donc séquence francophoniste, dont le président vient de dire quelques mots, puisque hier, Véronique Aurenius participait à une journée Aimé Césaire à l'ENS, donc 3 jours aujourd'hui autour des printemps arabes, et qui seront encore, si l'on veut, un peu couronnés, le mot n'est peut-être pas juste, mais en tout cas terminés, par une journée encore à l'ENS autour de Camus. Donc une présence de la francophonie extrêmement active qui a tendance à se développer dans notre équipe, et je tiens à souligner aussi bien les travaux pionniers des fondateurs, Charles Bonne, Bruno Jelas, l'équipe du Limagne et les personnes qu'ils ont pu fédérer autour d'eux, et puis ces innovations, ces projets qui viennent à terme actuellement. Je voudrais, à la suite du président, saluer très, avec beaucoup de chaleur et dire des mots de bienvenue et d'hospitalité à nos nombreux intervenants de ce colloque pluridisciplinaire et tout particulièrement à nos invités étrangers placés souvent au cœur de la mêlée dans la tempête, la bourrasque, pas toujours métaphorique, et la giboulée printanière. Nos hôtes étrangers qui viennent de 3 des 4 pays du Maghreb, n'est pas présente, mais est d'Égypte. Leurs émotions, ses collègues, mais aussi leurs réflexions sur la séquence en cours sont extrêmement précieuses pour notre travail, pour notre réflexion sur les effets de contagion, de contamination, de regard réfléchi d'un pays sur l'autre au cours de ces printemps arabes. Je voudrais saluer aussi, parce qu'ils représentent une perspective qui se veut sensible à la répercussion internationale du printemps, saluer avec chaleur nos collègues venus d'autres pays d'Europe que la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, ainsi que, par extension géographique, les États-Unis. Leur regard à ces collègues fera certainement un balancier entre le là-bas où se déroulent les événements et leur ancrage un peu décalé géographiquement, leur ancrage professionnelle et de vie. Ce pluralisme des points de vue géopolitiques sera reflété aussi par la diversité des regards et des compétences disciplinaires qui dialogueront dans cette enceinte. Le président vient de l'évoquer, mais je me permets d'y revenir. Donc, ici sont réunis des historiens, des sociologues, des professeurs, des politistes, des créateurs, des journalistes, des deux rives, des blogueurs, et ils auront ici, nous souhaitons vivement, entièrement droit de citer. Le regard sera porté sur des corpus littéraires, alors on a évoqué la francophonie, bon, bien sûr, des corpus littéraires en langue française, mais aussi en langue arabe, et la littérature sera associée tout naturellement à une vaste palette d'autres langages artistiques, cinéma, peinture, art de rue, graffiti, réseaux sociaux, blog. Le président est revenu longuement et a évoqué la liste de nos partenaires. Je vais faire un petit peu plus rapidement, mais je tiens aussi personnellement à leur adresser mes remerciements. Partenaires institutionnels, universitaires et milieux associatifs. L'AIEF, l'ARC 5 de la région Rhône-Alpes. À ce propos, donc, je tiens à souligner le fait que ce projet, donc, porté par nos collègues, a reçu un accueil assez immédiat et assez important au vu des diminutions drastiques de crédits qui touchent l'ensemble de la communauté universitaire. Donc l'ensemble de nos partenaires universitaires étrangers, le Caire, la Manouba, en Tunisie. Merci beaucoup à l'entregent du professeur Gafaiti qui a permis qui nous a valu une très belle, bonne surprise de rentrée par une généreuse dotation. Université française et partenaire, donc Paris Diderot, Stendhal, l'INS. Notre liste. Je remercie beaucoup en la personne du président notre université qui non seulement, comme il a été dit, nous a généreusement doté au titre des crédits recherche, mais aussi nous a fait bénéficier de ce label 40 ans d'université et de l'usage de ce bel amphi pendant 3 jours. Merci donc aussi aux associations partenaires, Soleil Rhône-Alpes, AFARA, Forum de solidarité euro-méditerranéenne et aussi mention spéciale, je remercie encore les membres du comité d'organisation, tous, vous envoyez la liste détaillée sur le programme, et du comité éditorial de cette manifestation. Merci vraiment au fond du cœur à Touria, à Véronique, à Charles Bonne, à Blandine, et à Elisabeth Taillet, bien sûr, pour l'organisation logistique et une personne que vous avez, avec laquelle vous avez déjà été maintes fois en lien et ça va continuer tout au long de ces jours. Je ne voudrais pas oublier les étudiants, les bénévoles qui ont été briefés tout au long de ces journées et qui vont vous accompagner de façon à rendre ces débats et ce séjour aussi instructifs, passionnants que agréables. J'en viens maintenant peut-être à quelques mots sur le fond. Il y a certainement mille façons dont ce colloque permettra, je pense, de faire un premier tour d'horizon, d'ajuster nos lunettes analytiques ou critiques sur un événement à chaud. Les contemporanistes que nous sommes, à passage, dans différents champs, cinéma, théâtre, littérature française, francophone, étrangère, nous le savons bien, la rapidité, sans parfois de distance avec laquelle les nouvelles technologies, par exemple, nous donnent accès quasi en temps réel à l'événement, réactive de façon singulière et parfois troublante une tension traditionnelle, familière aux historiens, mais aussi à d'autres corporations, la tension traditionnelle entre le temps de l'histoire, le temps des mémoires et le temps de la création réfléchie. Dans ce colloque, peut-être les mots si fameux d'Albert Camus, « Il y a un temps pour vivre » et un temps pour témoigner de vivre, sembleront quelque peu, peut-être, décalés au regard de l'urgence à témoigner dont cet inattendu est la trace. Peut-être, nous sentirons-nous plus proches, j'allais dire peut-être paradoxalement plus contemporains, des réflexions de quelqu'un qui est pourtant fort éloigné dans le temps, de Saint-Augustin, ses réflexions sur le temps, au livre 14 des Confessions. Qu'est-ce en effet que le temps ? À cette question, il répondait, quand on me le demande, je n'en sais rien, et quand je ne me le demande pas, je le sais. Donc, cette traversée du temps et de du temps présent, de ses turbulences, en cet espace méditerranéen, dans ses œuvres, dans ses témoignages, ce peut être aussi ce que vient d'expérimenter un écrivain français à travers un ouvrage tout récent. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai lu des commentaires sur ce travail et qui peut-être s'inscrit bien dans ces réflexions. Il s'agit de François Beaune, qui vient de faire un Beaune comme la ville, B-E-A-U-N-E, qui vient de faire un parcours d'un an et demi dans les pays de l'espace euro-méditerranéen, en partant de l'Espagne, mais bon, du Maghreb jusqu'en Palestine. Et de façon à donc pendant la séquence historique du printemps arabe, de façon à collecter des micro-récits, des récits de vie. Alors, dans un premier temps, son projet est un projet oral littéraire, on va dire, de recueil de vie singulière dans ce monde du Maghreb et du Proche-Orient en ébullition. C'est la forme pour lui, ce qu'il appelle une bibliothèque interactive ou une bibliothèque de matières premières destinée au grand public, mais également aux artistes qui en nourriront leur fiction. Et là, à partir de cette collecte, ils viennent de faire le livre publié aux éditions Verticales tout récemment. Peut-être il y aura une matière aussi à l'inscrire dans notre paysage des créations. Donc ce livre s'appelle « La lune dans le puits » et c'est une citation détournée en quelque sorte d'une phrase de Leonardo Sciascia, « La vérité au fond du puits ». Ces signes, cette vérité au fond du puits, ne sont sans doute pas tous perceptibles aujourd'hui, à chaud. L'imprédictibilité s'avérera peut-être au fil du temps moins assurée également. J'ai vu à travers les types des communications qu'on s'interroge sur cette notion d'imprévisible ou de prédictibilité. C'est en tout cas cet espace indécidable, cette sémiologie plurielle des œuvres à l'épreuve de l'histoire immédiate que ce colloque se donne et se donnera la liberté d'explorer. Voilà, donc je vais m'arrêter parce qu'il faut que les débats commencent et je suis certaine qu'ils vont être extrêmement denses, extrêmement animés et très ouverts, très riches, très, très divers. Et je me réjouirai d'être parmi vous dès que possible, lorsque les cours me le permettront, et en tout cas de vous rejoindre ce soir et tout à l'heure auprès du président pour justement, avec l'Égypte, avec la Tunisie, réactiver peut-être quelques hypothèses de convention. Et peut-être pour finir aussi, et pour rejoindre ce qu'a dit le président tout à l'heure, il était question de la Roumanie. L'année dernière, oui, tout à fait, l'année dernière, est venu M. Pozarudiu, un historien roumain à Bucarest, qui a un immense projet européen et au-delà, faisant dialoguer de nombreuses disciplines, et qui sera très présent aujourd'hui sur ces années, sur les commémorations notamment des guerres. Donc voilà, c'est dans cet espace-là, qui dépasse ici bien sûr la question du printemps arabe, même si vu de Bucarest, je pense qu'il a du sens, c'est sur cet espace-là qu'il nous faut travailler, et je rejoins entièrement les pistes que le président vient d'esquisser. Donc, beaux travaux, bons travaux, et à très bientôt.
Bonjour à tous et à toutes. Je serai brève parce que Monsieur le Président et Madame la Directrice du laboratoire Passage 2021 ont déjà dit l'importance de ce colloque. Je voudrais revenir ici sur le groupe d'études des littératures francophones que j'ai l'honneur de diriger et qui a préparé depuis plus de 2 ans ce colloque qui réunit aujourd'hui, pour 3 jours, plus d'une trentaine de personnalités venant des États-Unis, d'Europe, du Maghreb, du Mashrek. l'inattendu dans la création littéraire et artistique à la lumière du printemps arabe. Ce colloque a connu un premier volet en novembre 2012 dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Entre ces deux temps, puisque c'est un colloque en deux temps, le groupe d'études des littératures francophones a organisé, et Martine l'a rappelé tout à l'heure, de nombreux événements autour de la francophonie littéraire. Tout d'abord, par l'intermédiaire de son séminaire doctoral, Marge et Passage, qui a fait intervenir dans ses séances des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des écrivains, mais aussi de jeunes doctorants qui travaillent tous sur les littératures francophones, afin d'essayer de mieux cerner leur place ambiguë dans le champ littéraire qui, trop souvent encore, les assigne à résidence. Outre ces ateliers de recherche, le groupe d'études des littératures francophones a organisé en avril 2013 une journée consacrée aux littératures réunionnaises autour du professeur et écrivain Carpana Marimoutou. Et puis, Martine l'a rappelé hier, dans le cadre du centenaire de la naissance d'Aimé Césaire, il y avait hier à l'ENS une journée d'études consacrée à Aimé Césaire. On le voit, ce groupe qui est jeune, vraiment très jeune, puisqu'il n'a pas encore 3 ans, entend participer au sein du laboratoire 2021, dont il est une composante, entend participer au développement et au rayonnement des études francophones, dont Monsieur le Président a souligné l'importance au sein de l'université. Et ce faisant, ce groupe s'inscrit déjà, souhaite en tout cas poursuivre un travail qui a été bien entamé dans notre université. Notre groupe, effectivement, s'inscrit dans une longue tradition parce que c'est par la passion de deux hommes que je tiens à saluer ici et qui sont dans la salle, Bruno Gélas, ancien président de l'université, et Charles Bonne, professeur de littérature francophone et comparée. C'est grâce à la passion de ces deux hommes que l'université Lyon 2 s'est ouverte aux études francophones. On leur doit effectivement la création de la filière littérature francophone dès 1999. On leur doit ici son développement, aidé dans cette tâche par le professeur Philippe Goudet. En 2003, le groupe des francophonistes a favorisé l'implantation à Lyon 2 de l'école doctorale algéro-française de français, autrement dit l'EDAF, à laquelle ont collaboré pendant plus de 10 ans plus d'une trentaine d'enseignants de Lyon 2, sous la direction conjointe d'Anne-Marie Mortier et Bruno Gélas. Depuis janvier 2012, l'EDAF est devenu le réseau franco-algérien de recherche, la FEF, langue française et expression francophone, et le laboratoire 2021 est appelé à y jouer également un rôle majeur, comme par le passé. Mais je vais arrêter ici la présentation de ce groupe en remerciant tous les membres qui, pendant 2 ans, ont œuvré à la réalisation de ce colloque. Je laisse maintenant la parole à Touria Philitulon, qui a été la cheville ouvrière de ce colloque, et je tiens au nom de tous à la remercier de ses grandes qualités d'organisatrice, mais plus encore de ses qualités humaines.
Merci beaucoup.